Je vais te laisser te présenter aussi et nous raconter ce chemin de résilience. En tout cas, merci à toi d'être avec nous.
Merci. Bonjour à tous. Alors, mesdames déjà et puis messieurs, puisqu'apparemment, il y a aussi des messieurs, ce petit déjeuner entre femmes. Je vous remercie et je suis très heureuse d'être avec vous et merci d'être venues aussi nombreuses à ce petit déjeuner. Pour ce 20e anniversaire, je vous dirais que vu comment a commencé la première heure du petit déjeuner avec ce qu'on a dégusté, je regrette déjà d'avoir raté les 19 autres. Quoi qu'il en soit, je voulais aussi remercier Béatrice, Caroline, Mireille, Marilyn de m'avoir invitée, accompagnée et avec de façon très discrète mais vraiment très présente aussi et de m'avoir fait confiance. Donc en fait, Caroline et moi, on s'est rencontrés l'année dernière. Mon mari avait fait une intervention sur l'occultisme et Caroline m'a demandé si je connaissais une personne, une femme, qui pourrait éventuellement parler des conséquences qu'il peut y avoir d'avoir connu en fait l'occultisme ou d'avoir pratiqué de l'occultisme et faire appel à médium, etc. Et en fait, au fur et à mesure où nous avons parlé, nous nous sommes rendus compte que mon témoignage de vie pouvait aussi être intéressant dans la mesure où comment on peut perdre pied face à la douleur ou comment se détourner de Dieu. Ce jour-là, après notre conversation et les temps d'après, j'ai prié pour demander au Seigneur si vraiment il voulait que je sois là aujourd'hui. Et en fait, dans mon cœur, j'ai eu une conviction. C'était « Je ne te demande pas de parler de ta vie, même si bien sûr je vais vous en parler, je te demande de parler de ce que j'ai fait pour toi. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Je peux vous dire que c'est une première. Je ne suis jamais montée sur une estrade. Je n'ai jamais parlé devant du monde, ni devant 100 et quelques personnes. Donc tout est une première, même PowerPoint. Donc voilà. Mais je savais que je devais venir là aujourd'hui parce que j'avais vraiment à cœur de vous dire que tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini, rien n'est jamais fini. En fait, Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Donc en fait, comme vous l'avez vu dans la présentation, je crois, je suis mariée avec Fred Molo, j'ai 3 enfants et je suis douanière. Donc oui, c'est encore une espèce qui existe, elle n'est pas en voie de disparition. C'est encore un métier qui existe. Il faut savoir que moi, je fais partie non pas de ceux qui sont en uniforme, qui vous contrôlent à l'aéroport ou sur la route, mais qui contrôlent les entreprises pour protéger le territoire de ce qui vient sur le territoire français. Et donc, je fais la douane à Chambéry, enfin, j'exerce mon métier à Chambéry. Je suis donc, alors je vais vous remettre effectivement le verset qui m'a tenu à cœur. Alors, je ne maîtrise pas non plus PowerPoint. Voilà. Donc, c'est le verset dont a parlé Béatrice. Parce que lorsque je me suis convertie, j'ai demandé vraiment au Seigneur que quoi qu'il advienne, et surtout connaissant mon cœur, que jamais on soit séparés. Et il a accompli sa parole. Je lui avais aussi demandé de me donner de le connaître vraiment. Il a aussi accompli sa parole. Donc, je suis née d'un mariage mixte. Ma maman est française et mon père vietnamien. Donc, si je vous parle de mon père, vous allez voir toutes les images qui vont défiler dans le PowerPoint sont des images du Vietnam parce que je pense qu'il y a eu une influence dans tout ce que j'ai vécu, notamment. Donc, mon père, il faut le savoir, le Vietnam est un pays donc, qui est constamment en guerre, qui a très peu connu la paix. Même encore aujourd'hui, il se bat pour protéger son territoire des Chinois qui veulent l'envahir. Donc c'est un peuple combatif, résistant. Et c'est aussi le pays que l'on appelle le pays du dragon. Donc pour ceux qui connaissent la parole, nous savons que le dragon, c'est le diable. Effectivement, c'est un pays où il y a beaucoup de pratiques occultes. Et notamment, dans chaque famille, on a une relation privilégiée avec ceux qui sont décédés, avec les morts. Donc, je vais vous montrer dans chaque maison. Alors, c'est moi qui ne dois pas bien appuyer. Ah, c'est par ici, pardon. Ah oui, donc excusez-moi. Alors, il y aura peut-être un décalage, hein, mais voilà. Donc, voilà. Donc, le culte des ancêtres, dans chaque maison, vous avez une pièce qui est réservée pour les défunts. Donc, vous avez un autel, et vous avez une photo, et on nourrit, on donne de l'argent aussi, on veille au confort des morts, parce qu'en fait, on pense que quand les défunts, quand une personne meurt, son âme ne meurt pas, et elle veille de l'au-delà sur vous. Donc, il faut surtout veiller à son confort à elle, parce qu'elle peut aussi être justicière, et donc vous envoyez des maladies, des maux, la mort, etc. Donc, en fait, chaque famille vit un peu dans cette crainte. On vit dans ce contexte-là. Ce que je veux spécifier, c'est que mon papa, qui est donc venu à l'âge de 7 ans, il fuyait la guerre, ne nous a jamais élevés à la vietnamienne, il nous a élevés à la française. Mais si je vous ai parlé de ça, c'est parce que je pense qu'il a été imprégné de tout cela. Il a connu la guerre jusqu'à 7 ans et il a connu ses rites et ses pratiques avec sa mère. Quoi qu'il en soit, donc, mon papa était un homme très violent. Il a donc épousé une Française, maman. Ils ont eu une fille, ma sœur, Sylvie, à l'âge de 18 ans, 17 ans même, précisément. Et mon père était quelqu'un de très violent. Ça veut dire qu'il pouvait exploser pour n'importe quoi. C'était une fourchette qui tombait par terre et c'était tout de suite des explosions, des insultes, donc des proclamations de mort. Tu mérites la mort, tu mérites d'être pendu. Donc, c'est des paroles qu'il disait. Il battait ma sœur avec le ceinturon et il menaçait ma mère avec le couteau. Donc, il utilisait le couteau et il poursuivait ma mère en disant « Tu te mets à genoux, tu demandes pardon. » Donc, vraiment, c'était un contexte où on vivait constamment dans la terreur. Et donc, je crois pouvoir le dire aujourd'hui, on vivait sous le joug d'une oppression, vraiment d'une oppression. Maman, dans tout cela, essayait un peu de nous préserver le climat familial. Elle essayait de tenir la route en créant une atmosphère à peu près normale. Mais très vite, je suis devenue une jeune fille et une adolescente et une enfant craintive, très craintive, combative aussi, parce que je cachais le couteau de boucher sous les autres couteaux. Je pensais que ça pouvait être efficace. Je ne suis pas sûre que c'est vraiment efficace, mais bon, je cachais ce couteau. Et puis, je deviens aussi une jeune fille qui avait plein de tocs. C'est-à-dire, je vérifiais 10 fois les choses parce que j'avais toujours peur qu'il arrive quelque chose. Je devins aussi, je grossis. Je devins aussi une jeune fille qui m'effaçait, qui n'aimait pas le conflit puisqu'il y avait toujours du conflit à la maison. Et puis, une personne qui se sentait coupable parce que j'étais différente. Moi, mon père m'épargnait, je ne sais pas pour quelle raison, mais moi, il m'a épargnée. Mais moi, je voyais à l'âge de 5 ans ce qu'il faisait. Et donc, très vite, je devins une personne très solitaire et indépendante. Donc, en fait, ce n'était pas le portrait des plus flatteurs. Ce n'est pas ce portrait-là que j'aurais présenté à Fred le jour où je l'ai rencontré. Mais heureusement, c'était sans compter d'un Dieu qui sait redresser tout ce qui est tordu. Et c'est ainsi que ma sœur, elle, avait rencontré un pasteur qui était ami de ma mère, là où elle travaillait, et elle l'avait entendu témoigner à ma maman, qui aujourd'hui n'a pas encore accepté Dieu dans sa vie. Et par contre, ma sœur, oui. Et donc, elle a donné son cœur à Dieu à l'âge de 16 ans. Et elle a donc commencé à me parler d'un Dieu qui voulait m'accueillir. Pardon. Alors, j'ai dû... Hop. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Pardon. Et effectivement, elle m'a donné une Bible et elle m'agaçait un petit peu avec son Jésus, je me rappelle. Hein, je me disais, elle me fait suer, elle me parlait tout le temps de Jésus. Donc n'abandonnez pas de parler de Jésus. Et quoi qu'il en soit, ce qui s'est avéré, c'est que de temps en temps, je me disais, je vais prier, on va voir si ça marche. Et j'avais des réponses à mes prières, mais je n'ai pas voulu écouter. Je me suis dit, bon, je continue ma vie. Et en fait, c'est dans un jour de très grande détresse que j'ai rencontré Dieu d'une façon incroyable. C'est parce que tout simplement, je vivais avec une personne donc, depuis 5 ans. J'avais acheté un appartement, j'allais m'engager avec cette personne. Et donc, tout était prêt. Et un mois avant le mariage, tout a explosé. Je me suis dit, c'est pas possible, je l'aime pas, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Mais je m'étais totalement engagée, j'étais pieds et poings liés. Et ce jour-là, j'ai appelé, comme je faisais toujours, ma mère ou ma sœur. Aucune réponse. Donc là, j'étais désespérée, je pleurais et j'ai mis ma main dans la poche, j'ai trouvé un papier. Et dans ce papier, il y avait un numéro de téléphone. Et c'était le numéro de téléphone de Babette, la femme du pasteur qui avait témoigné à maman et à ma sœur, et que j'avais rencontrée lors d'un repas. Je les avais rencontrées peu de temps avant. Et elle m'avait donné ce numéro en me disant « Si un jour tu as besoin, n'hésite pas. » Et là, j'ai été convaincue que je devais appeler. J'étais sûre, pourtant je ne la connaissais pas, je l'avais vue qu'une fois. J'ai donc fait le numéro de téléphone de Babette. Et là, j'ai entendu, j'ai dit « Babette, c'est moi, Nathalie. » Je pleurais. Et Babette m'a dit, ce jour-là, elle m'a dit « Oh là 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 là, si tu savais, ça fait 20 ans que j'attends ce coup de fil. Ça fait 20 ans que je prie pour toi depuis que je t'ai vue toute petite. » Ce jour-là, j'ai été assise, je me dis « Dieu existe. » Il avait préparé cette femme dans la prière depuis 20 ans pour que moi, je sois à ce moment-là. Et là, j'étais convaincue, effectivement, que Dieu m'attendait depuis toujours. Et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce verset, d'où me viendra... Alors, pardon, je n'ai pas le bon réflexe, je suis désolée. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours, merci, oui, vous avez un peu de mal à entendre. Je mange le micro. Merci. Ah oui, c'est mieux, merci. Donc je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. À partir de là, le Seigneur a fait vraiment une très grande restauration dans mon cœur au fur et à mesure des années, dans de nombreux domaines. Déjà, il m'a libérée donc, de cette future ex-alliance. J'ai été protégée, donc vraiment, lorsque j'ai quitté cette personne en fait avait une voiture, il m'avait prêté une voiture, j'ai eu un accident de voiture terrible, je venais de le quitter, il m'avait prêté la voiture pour ramener mes affaires, j'ai eu un accident de voiture terrible, j'ai fait des tonneaux, et en fait, quand je suis sortie de la voiture, il n'y avait plus de voiture, sauf l'habitacle, et moi j'avais rien. Et en fait, j'ai eu une double protection. Cette voiture, cet ex-petit ami l'utilisait pour me surveiller, me harceler, parce qu'il ne voulait pas me laisser partir. Et si je vous parle de tout ça, c'est que parfois, eh bien, il y a des choses qui se produisent, on ne comprend pas pourquoi, mais Dieu savait, parce qu'à partir de ce jour-là, cet homme m'a laissé, il ne pouvait plus me surveiller. J'ai eu de nombreuses bénédictions, bien sûr, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a libérée de mes tocs, il m'a libérée par rapport à la nourriture, il me bénissait dans mon travail, dans les choix et professionnels, et il m'a même conduit vers mon premier mari, puisqu'à partir de ce jour-là, j'avais dit au Seigneur, j'avais dit à Dieu, écoute, maintenant, je veux t'obéir, et tu connais le désir de mon cœur, c'est d'avoir un mari, une famille. J'avais 25 ans, mais c'est toi qui le choisiras. Et je peux vous dire, parce que bon, je ne peux pas tout développer, mais vraiment, le Seigneur a fait d'une façon incroyable, parce que j'avais dit, à moins de le rencontrer dans un Intermarché où on va se cogner, mais je ne vois pas comment tu vas faire, puisque j'accepte aucune invitation. Mais par contre, c'est vrai que j'aimerais que ça soit la première personne qui m'offre un bouquet de fleurs et qui m'emmène à la mer. Alors moi, j'avais vraiment cette relation avec Dieu. Je lui parlais vraiment comme son enfant. Et puis je me suis dit, c'est idiot ce que je dis. Et dans un concours de circonstances, j'ai rencontré, donc, il s'appelait Christophe. Et par contre, il ne me plaisait pas du tout. Et il me propose un bouquet de fleurs et de m'emmener à la mer. Donc là... J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit, moi, j'en veux un comme ça, mais pas lui, il me plaît pas. Et pourtant, parce que Dieu connaît notre cœur et notre cœur nous trompe bien souvent, d'où l'importance de lui faire confiance pour le choix de son mari. Et pourtant, au fur et à mesure, le Seigneur nous bénissait ensemble. On ne faisait que partager sa parole. On était bien, on était vraiment bénis. Et au fur et à mesure, il nous a montré qu'effectivement, il nous voulait comme mari et femme. Et ça s'est illustré de par le fait qu'un jour, mon époux notamment, parce qu'on avait un chemin aussi avec le pasteur, son épouse, mais un jour, il a eu un rêve. Il m'a dit, oh, c'est marrant, j'ai rêvé. On marchait vers la lumière tous les deux et il y avait deux enfants. Et de fait, nous avons marché vers Jésus et nous avons eu deux enfants, Charlotte et Camille. À ce moment-là aussi, et c'est ce dont je voulais vous parler peut-être plus précisément, j'ai connu mes premières expériences donc de libération émotionnelle, mais aussi spirituelle, c'est-à-dire mes premières expériences avec le monde dit invisible. Donc, qu'est-ce que le monde invisible ? Je dirais que ceux qui connaissent la parole, tout comme ceux qui ne la connaissent pas, les voyants, etc., toutes ces personnes qui touchent à cela, ce monde invisible, c'est un monde où il y a de bonnes et de mauvaises choses, un monde qu'on ne voit pas. Et pour ma part, j'ai eu trois grandes expériences à ce sujet, et notamment un pardon libérateur. C'est-à-dire qu'entre-temps, mon père avait divorcé donc, de maman. Il s'était remarié avec une Vietnamienne. Il s'était dit, au moins, on sera sur la même longueur d'onde. Effectivement, Thérèse, Vietnamienne, avait 15 ans de moins, mais elle était plus violente que lui. Extrêmement violente. Et lui avait vieilli, il avait perdu sa force. Et elle était très violente. Elle avait aussi connu la guerre, notamment. Et un jour, mon père m'a appelée au secours en disant « S'il te plaît, viens me sauver », parce qu'en fait, elle venait d'avoir cassé une bouteille de verre sur sa tête. Et donc, ce jour-là, oui, il est à noter que même si notre cœur il s'est déchiré de voir tout ça, que la justice divine existe, effectivement, et que mon père, qui nous avait fait subir, subissait lui-même ce qu'il nous avait fait connaître. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, on a prié. Et je suis allée chercher mon père et j'ai eu affaire à une Thérèse qui était méconnaissable. C'était une personne que je ne reconnaissais pas, qui me faisait penser à mon père quand il faisait ses colères. Et elle avait une autre voix, mais elle avait une voix grave comme une voix d'homme. Et vraiment, je pense que ce jour-là, Jésus était en moi, a permis qu'il y ait un climat de paix et j'ai pu ramener mon père. Mais le lendemain, j'étais à l'église et j'étais avec les frères, les sœurs. Et d'un coup, dans mon cœur, j'ai eu cette conviction, ton père, il va mourir. J'ai pris les mouchoirs, alors excusez-moi. Et si tu ne pries pas, si tu n'appelles pas Dieu au secours, pour lui, il va mourir. Alors ce jour-là, il y a eu un grand combat dans mon cœur. Parce que je me disais, mais je ne peux pas prier pour lui, pas après tout ce qu'il a fait. Et en fait, Jésus a mis le vouloir et le faire dans mon cœur. Parce que ce jour-là, je me suis dit, mais je ne veux pas qu'il meure, je ne veux pas qu'il meure. Et c'est ce jour-là que j'ai pardonné totalement. J'ai crié à Dieu qu'il protège et qu'il garde mon père. Et c'est comme ça qu'il a donné dans mon cœur vraiment un pardon qui m'a libérée. Et peut-être qui m'a libérée dans mes relations avec mon père aussi. Ça a été ma première expérience avec ce pardon, cette libération émotionnelle. Au niveau spirituel, j'ai eu une deuxième expérience qui était de... En fait, il m'est arrivé à partir du moment où j'ai donné mon cœur à Dieu, je me suis donc convertie. Eh bien, le Seigneur m'a fait faire un chemin. C'est-à-dire que d'abord, il m'a montré qu'il existait. Ensuite, j'ai eu un chemin de pardon où il m'a montré ma vie sans lui, tout ce à quoi ça m'avait mené. Donc, je lui ai donc demandé pardon dans ce cheminement. Mais j'entendais souvent les frères et sœurs parler de la révélation du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, mais je ne comprenais pas. Et donc, je priais en ce sens. Et en fait, j'ai eu trois cauchemars, enfin, c'était pas des cauchemars, trois nuits assez terribles. La première nuit, en fait, je dormais et c'est comme si quelque chose m'opprimait et me paralysait. Je pouvais plus bouger la nuit. Et la seule pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est Jésus. Mais je pouvais plus bouger les lèvres, plus rien. Et c'est dans mon esprit que d'abord j'ai prononcé Jésus, et ensuite ça a été petit à petit dans ma tête, dans mes pensées, et quand mes lèvres petit à petit sont bougées, j'ai commencé à prononcer le nom de Jésus tout haut. Alors, merci. Voilà, de même, l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que des mots ne peuvent exprimer. À partir de là, l'oppression est partie. La deuxième fois, j'avais donc vu ma cousine et elle me parlait de son fils. Elle m'a dit, c'est marrant, j'ai un problème, mon fils avait de l'eczéma et je suis allée voir un guérisseur. Et puis maintenant, il a de l'asthme. Donc je ne vais pas trop développer parce que c'est un thème que Fred va développer donc dimanche. Mais il faut le savoir, les guérisseurs ne guérissent pas, ils déplacent les maladies ou ils les endorment. C'est pour ça que vous retrouvez une autre maladie, c'est pour ça que vous revenez les voir. En fait, leur pouvoir est limité. Et à ce sujet, j'avais donc demandé au Seigneur, parce qu'on me posait souvent des questions, on me disait, bah oui, mais ça a l'air de marcher, alors je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Et le Seigneur m'avait donné cette réponse quand j'avais prié. Il m'avait parlé de ce passage, en fait. Donc, le peuple hébreu est prisonnier de Pharaon. Il est en esclavage. Et au travers de Moïse, Dieu va faire des miracles pour persuader Pharaon de laisser partir le peuple. Et nous voyons que dans les deux premiers miracles, Moïse, le Pharaon avec ses magiciens répond du tac au tac à Moïse. Et là, nous sommes dans un des passages. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit « Faites un miracle », tu ordonneras à Aaron, « Prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. » Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce qu'il avait ordonné. Aaron jeta le bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents, mais le bâton d'Aaron engloutirent les leurs. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que les magiciens répondent, mais ils sont obligés de mettre plusieurs bâtons. Moïse n'a qu'un seul bâton. Et à la fin, c'est le bâton d'Aaron, qui engloutit tous ceux des magiciens. Les magiciens, effectivement, peuvent faire appel au monde invisible, des bonnes ou des mauvaises choses, à vous de répondre. J'allais vous dire, les bonnes choses, Dieu ne veut pas qu'on communique avec le monde invisible, donc il ne reste que les mauvaises choses. Et en fait, leur pouvoir est limité, c'est-à-dire que Dieu est vraiment au-dessus de toute chose, avec un seul bâton, il a englouti le pouvoir donc des magiciens. Donc, je me suis mise à prier ce jour-là par rapport à François, mon petit-neveu. Et c'est là que dans la nuit, j'ai été de nouveau attaquée. De nouveau, j'ai prononcé le nom de Jésus et de nouveau, l'oppression est partie. De nouveau, la pièce était légère. Et puis, c'est la troisième fois que c'est arrivé. La troisième fois de nouveau, alors là, ce n'était pas que j'étais oppressée, c'est comme si j'avais le plafond qui allait s'effondrer sur moi et j'arrivais plus toujours à bouger. J'ai prononcé le nom de Jésus. Et cette fois-là, eh bien, j'ai vu comme une forme lumineuse qui sortait de moi. Je ne voyais pas son visage, mais je savais que c'était Jésus. Et j'ai vu d'un coup l'oppression partir. J'ai vraiment expérimenté la puissance du nom de Jésus. Il avait repoussé les ténèbres. C'est un verset que plus tard j'ai eu. Alors, c'est... Merci. Je crois que je vais prendre les stages. Alors, pardon, non, donc du coup, ce n'était pas celui-là. C'était, comment dire, alors, excusez-moi que je retrouve mes bonnes pages. En fait, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, c'est Colossiens 1, 12, 13. Je n'ai pas... voilà. Exact. Merci. Donc ça a été donc la deuxième expérience, c'est que j'ai vraiment vu l'oppression partir. Et à partir de ce jour-là où j'ai eu la révélation que Jésus était en moi, qu'il était la lumière, eh bien l'oppression n'avait plus la même emprise sur moi. Et donc je n'ai plus subi ces oppressions la nuit. La troisième chose, c'est que j'avais aussi, jeune, des pensées de violence qui me venaient comme des flashs dans l'esprit. Et ça s'est vraiment réveillé quand je me suis convertie au Seigneur. J'avais des pensées où je voyais comme si je pouvais faire du mal à des plus faibles, des enfants. C'était comme des flashs, donc c'était très rapide, mais ça me paralysait parce que je me disais mais c'est moi qui suis comme ça, c'est pas possible. Et ça a été 10 années de prière pour être délivrée de ces pensées-là. Ces pensées de violence, alors est-ce que ça venait du fait que j'avais vécu toutes ces choses? Je ne sais pas. Par contre, dans ces 10 années, parce que parfois le Seigneur met du temps avant de nous, enfin, selon nous, à nous délivrer. Mais dans tout cela, pendant ces 10 années, j'ai appris à prier avec les frères, j'ai appris à me parler avec les pasteurs. Moi qui étais si solitaire, j'ai appris beaucoup de choses dans ces 10 années. Et au bout de 10 années, j'ai fait un voyage au Vietnam. Et durant ce voyage, eh bien, j'ai visité un camp de prisonniers. Et dans ce camp de prisonniers, d'un coup, j'ai vu des photos de, malheureusement, de torture, de ce qui avait dû être fait. Et je ne peux pas vous expliquer vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai réalisé que je connaissais cette forme de violence que je voyais sur les photos. C'était la même qui venait dans les flashs que j'avais. Et ce jour-là, j'ai réalisé que ça ne venait pas de moi. Ce n'était pas moi qui étais comme ça. C'était des choses qui venaient, qui s'imposaient à mon esprit. Et peut-être, c'était ce que mes ancêtres avaient pu faire ou pendant la guerre, ou ce qu'ils avaient pu subir. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, c'est ce qui m'a affranchie. Pareil, j'ai plus ces pensées. J'ai réalisé que ça ne venait pas de moi. Donc, en fait, suite à toutes ces expériences donc, d'une enfance tourmentée, je suis devenue une enfant de Dieu bénie, chérie et choyée. Et c'est tout naturellement que je me suis fait baptiser en 2001, donc. Et lors de mon baptême, eh bien, j'ai reçu ce magnifique verset. Je comprends aujourd'hui pourquoi je l'ai eu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. En parallèle, mon mari, donc, puisque nous étions mariés, vivait son chemin, très compliqué. Lui-même, en fait, avait eu une enfance brisée. Hein, il avait l'erreur d'une nuit, de ce que disait sa maman, qui est venue le chercher à l'âge de 6 ans. Donc, il ne l'a jamais connu avant. Il n'avait jamais connu son père. Il avait été confié à des personnes qui le maltraitaient. Et sa mère le battait aussi. Et à 10 ans, en fait, il a perdu sa mère. Et du coup, il a été élevé par des grands-parents, et quand il commençait à avoir une vie stable, à 13 ans, il a perdu son grand-père devant lui. Donc à partir de ce jour-là, sa vie totalement brisée, cet homme a déclaré une dépression bipolaire, et il a fait une tentative de suicide, il avait 20 ans. Son cheminement avec Dieu était vrai, sincère, vraiment, il cheminait avec Dieu, il le cherchait. Mais lui-même me disait, je ne comprends pas, la parole, elle ne me parle pas. Et je cherche le nom de Jésus, la révélation aussi du nom de Jésus. Et un jour, et bien en fait, donc il est retombé dans la dépression, il avait des phases. Et un jour, en fait, et bien il a essayé de se tuer. Il faut le savoir, ce jour-là, moi, j'étais engagée à devoir accompagner, lors d'une sortie scolaire, les enfants. Il était très mal, donc je me rappelle avoir appelé Babette, cette femme, la femme du pasteur qui nous suivait toujours, et j'avais dit, mais qu'est-ce que je dois faire, Babette? Et elle m'avait dit, écoute, s'il te dit que tu peux partir, vas-y. Et en fait, le soir même, il m'avait annoncé qu'il m'avait dit, j'ai essayé de me tuer, mais tu ne m'aurais pas retrouvée. Et il m'avait dit, mais il y a quelque chose qui m'en a empêchée, c'est cette pensée que nos enfants étaient trop jeunes. Hein, donc les filles, elles devaient avoir 6, ou enfin, dans les 6 ans, quoi. Et ce jour-là, Dieu l'a empêché. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai appris plus tard que Babette avait prié à genoux toute la journée pour lui. C'est pour ça que vraiment, la prière est efficace et puissante. Et malheureusement, il ne tenait plus. Il y avait vraiment des combats. Il combattait contre lui-même, mais pas que, je pense. Il faut savoir que en fait, mon époux, dans sa famille, ils avaient pratiqué beaucoup de choses. Ils allaient voir des guérisseurs, des médiums, parce que bon, ils habitaient en Bretagne. Ils avaient pratiqué des avortements parce qu'ils ne voulaient qu'un seul enfant par génération. Enfin, c'était vraiment des choses, voilà. Donc, je pense, même si nous le savons, toutes les dépressions n'ont pas une origine spirituelle. Je pense que lui, il y avait quand même tous ces combats spirituels au-dessus de sa tête. Voilà. Et donc, en décembre 2007, mon époux s'est donné la mort avec son âme de service, puisqu'il était douanier. Et donc, nous nous sommes retrouvés toutes les trois à rentrer dans l'ombre de la vallée de la mort et pour de longues années. Alors, le deuil, c'est, c'est un état. Vous êtes dans un état de grande tristesse, évidemment, parce que vous devez composer avec un passé, dans un présent, où, sans la personne, sans l'être aimé, et ne plus jamais envisager le même avenir. Le deuil, c'est en fait, vous vous sentez un peu, je dirais, en mode informatique, en lecture seule. Vous êtes en dehors, décalé. Vous faites les mêmes choses que tout le monde, mais ça n'a plus de goût. Et vous essayez de faire les mêmes choses que tout le monde pour rassurer les autres, parce que évidemment que les autres, ils veulent vous aider, et donc vous essayez de faire comme eux, mais vous êtes en décalage. Ça veut dire que donc c'est un état progressif d'épuisement. Parce qu'effectivement, en plus, en tant que maman, je devais faire les deux à la fois, au niveau émotionnel, au niveau financier, matériel. Donc, c'était... Voilà. Mais vous ne pouvez pas être deux en une seule personne, c'est impossible. Donc, en fait, vous vous retrouvez finalement dans un grand état de vulnérabilité, même spirituel, je dirais. Dans le deuil, en fait, vous avez plusieurs stades. Le premier, c'est le déni. Et c'est là où vous dites que la nature est bien faite. C'est-à-dire qu'au début, vous dites que ce n'est pas possible, parce que le corps amortit. Le corps ne réalise pas tout de suite. Je vous dis tout ça, si un jour on accompagne une personne, on ne peut pas comprendre sa réaction, mais en fait, le corps amortit pour laisser le temps. La deuxième phase, eh bien, c'est en fait la recherche de l'être aimé. C'est-à-dire que là, vous recherchez le son, les images, vous recherchez la voix même. Et c'est là que, eh bien, il y a des personnes qui, quand elles ne connaissent pas la parole de Dieu et sa volonté, c'est-à-dire qu'on ne communique pas avec les morts, bah, peuvent faire appel à des médiums parce qu'ils cherchent à savoir où elles sont. On cherche à communiquer. Et puis, nous, on l'a vu aussi une fois dans une église, même des gens qui aiment Dieu, eh bien, ont eu tendance à encore parler aux morts. Comme les ancêtres, nos ancêtres vietnamiens, on les retrouve, faisaient, et on ne coupe pas le lien. Et moi, dès le départ, il a fallu vraiment que je prenne cette position, c'est-à-dire par rapport à mes filles qui entendaient « mais t'inquiète pas, ton papa, il va te parler, il veille sur toi ». J'ai dû tout de suite, face au chagrin de mes filles qui se sont réveillées un matin en disant « mais il est où, papa ?», j'ai dû tout de suite leur dire « non, il est mort, il fait partie d'un autre monde maintenant, tu n'as plus accès à lui ». Et on prie que Dieu, vraiment, il l'ait amené auprès de lui, mais tu ne peux plus parler à ton papa. Il a fallu vraiment prendre cette position. Et cette position, oui, je pense que vraiment, c'est une prise de position à prendre dès le départ. Le but, en fait, c'est de continuer d'aller vers l'avant, de ne pas rester en arrière, de ne pas garder... Alors, chacun son rythme, bien sûr, mais de ne pas garder des choses qui vous laissent dans la nostalgie, qui vous ramènent en arrière et qui finalement vous ramènent dans la tristesse et la peine. La vie, c'est le mouvement et c'est avancer. Alors, j'ai peut-être dû rater un PowerPoint, je ne sais plus. Effectivement, on le voit, merci. Dans la parole, j'étais tombée quand j'étudiais Genèse, et Abraham, qui vient de perdre sa femme, dans Genèse 23,4, demande une propriété pour l'enterrer. Et là, c'est net. C'est pas qu'on n'a plus le droit d'appeler la personne disparue par son prénom, mais là, c'est net. Il a dit « Donnez-moi une propriété funéraire pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Il y a vraiment une volonté de ne pas, de s'éloigner, de ne pas rester dedans. Et contrairement à Jacob, qui effectivement, lui, va dire à un moment donné, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Jacob était inconsolable. Donc, je pense réellement que dans le deuil, même si on le subit, il y a des prises de position à avoir. En revanche, donc j'ai pu éviter cet écueil, mais je n'ai pas évité le troisième, qui est le troisième état de... dans le deuil, c'est la colère. Pourquoi c'est arrivé? Comment ça se fait? Et petit à petit, le temps passait. Le temps passait, donc là, oui, c'est un petit peu en avance, mais le temps passait, et en fait, je supportais de moins en moins. Donc, j'étais vulnérable, j'étais fatiguée, mais les week-ends passés, je voyais les familles qui se rassemblaient, qui projetaient tous les week-ends, dire ben, « on va se retrouver, on va faire ça, les vacances ». Je ne supportais plus de voir mes filles qui me disaient « mais maman, c'est fini, nous, quand on aura nos 18 ans, notre bac, il ne sera pas là, il ne le verra pas ». Enfin, beaucoup de choses. Et je continuais d'aller à l'église, mais en fait, petit à petit, dans mon cœur, J'avais, mais pourquoi Seigneur, tu ne changes pas la situation? Pourquoi tu ne le changes pas? Et en fait, c'était comme aller dans les eaux amères de Mara. Donc, c'est un passage dans la parole. Les eaux amères de Mara, je ne sais pas si... voilà. Donc, dans ces eaux amères de Mara, en fait, quand Dieu va délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte, il faut le savoir, c'est un parallèle avec nous qui sommes délivrés donc du péché et donc on va vers le pays promis. Eh bien, on peut traverser le désert comme ce peuple. Avant d'aller vers ce pays où coule le lait et le miel, eh bien, il y a le désert. Et dans le désert, le peuple, à un moment donné, va près des eaux de Mara. Et en fait, il a soif, mais il ne peut pas la boire parce qu'elle n'est pas potable, en fait. Elle est amère. Et en fait, c'est l'endroit de la désillusion, c'est l'endroit où on est au bout de ses forces, l'endroit où on est au bout de toutes ses capacités. Et comme le peuple hébreu, j'ai dit au Seigneur, mais exactement comme lui, j'ai dit, mais pourquoi tu m'as délivré? Pourquoi tu m'as délivré de cette vie pour m'amener jusque-là? Pour en arriver là? J'étais arrivée là. Et en fait, d'où l'importance de ce verset. Ils reviennent en pleurant, mais je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les conduis vers des torrents d'eau par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas. Je l'ai lu plusieurs fois, mais ça ne m'a pas atteint mon cœur. En fait, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu quand Dieu me donnait la capacité de réparer moi-même mon lavabo, de réparer moi-même ma porte. Je n'ai pas vu quand Dieu me donnait les personnes sur mon chemin qui savaient me conseiller pour mes filles, qui savaient pour telle chose. Je n'ai pas vu qu'en fait, Dieu prenait soin de moi au travers des personnes qui m'étaient sur mon chemin. Et c'est comme ça que petit à petit, dans cette révolte, eh bien, je me suis détournée de Dieu et que j'ai rencontré une personne qui était athée, qui ne voulait pas connaître Dieu. Et nous nous sommes mariés. Donc je me suis mariée et nous avons eu un petit garçon, Benjamin. Benjamin qui aujourd'hui a 14 ans. Dans ce cheminement, ça a été très difficile, puisque en fait cet homme était violent. Encore. du moins verbalement. Du moins, il cassait les choses. Ça a été 4 années de trahison, de mensonges. Et pourtant, 4 années où Dieu a été fidèle. Parce qu'il m'a donné ce petit garçon qui nous a donné beaucoup d'affection et de tendresse, à moi et mes filles. Nous n'en avions plus depuis le deuil. Et le Seigneur n'a pas lâché ma main. Et un jour, donc, nous avons donc divorcé, après toute cette vie de... compliqué, de mensonges, de trahison, comme je l'ai dit. Et donc, voilà, un jour, nous avons divorcé. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte, parce que je commençais de plus en plus à crier à Dieu, vu que la situation devenait de plus en plus compliquée. Et en fait, je me suis aperçue que Dieu, comme en hiver, on a l'impression qu'on est encore dans la saison de l'hiver, et pourtant, il y a déjà les pousses qui sont là. C'est-à-dire que mon état d'esprit s'était modifié. Au départ, j'avais dit au Seigneur, je sais bien, ce n'est pas toi qui as appuyé sur la gâchette, mais je ne sais pas pourquoi tu as permis ça. Après, je suis passée à l'état d'esprit, je ne sais pas pourquoi tu l'as empêché une fois, mais pas la deuxième. Et puis après, ça a évolué, je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Pour finalement arriver à ces deux états d'esprit, je ne sais pas pourquoi, mais toi, tu sais. Et enfin, j'ai capitulé, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais j'accepte maintenant de ne pas tout comprendre. Mais moi, je ne peux pas te perdre toi, parce que si je te perds, c'est mourir une deuxième fois. Et donc, effectivement, Dieu est le Dieu des recommencements. Et c'est passé par Jésus. Alors, donc, j'avais une nouvelle relation suite à cette épreuve. Je ne pouvais plus parler de la même façon, mais je m'adressais au Seigneur. Et petit à petit, dans cette nouvelle relation, il y avait quelque chose qui de nouveau revenait dans mon cœur. C'était cette espérance que j'aurais de nouveau une famille, enfin que je fonderais, j'aurais de nouveau un mari et que j'aurais une famille. Mais je m'étais dit, Seigneur, je te prie, mais tu as vu qui je suis, ce que j'ai fait, enfin, pourquoi tu me redonnerais une deuxième chance? Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient de moi? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux me parler par ta parole, mais aussi me parler autrement. Pas que par ta parole, d'une autre façon, que je ne désobéisse pas. Et effectivement, dans la journée, il y a une conversation qui m'est revenue à l'esprit. Peu de temps après mon veuvage, j'avais parlé avec ma sœur chrétienne, donc, qui m'avait parlé de Jésus. Et elle m'avait dit, t'as quel âge? Je lui ai dit, bah, j'ai 37 ans. Et elle m'avait dit, oh, elle m'a dit, bah, dis donc, t'as le temps d'avoir deux maris. Je me suis dit, mais c'est débile ce qu'elle dit. Moi, je sais que je vais obéir. Moi, je sais que je vais écouter le Seigneur. Et s'il me redonne, ce sera un mari. Mais Dieu savait. Dieu connaissait. Dieu savait, il connaissait mon cœur rebelle, il savait le chemin que j'allais faire, et il me rappelait cette promesse que lui, il n'avait pas changé son plan. Et donc, c'est comme ça que j'avais cette promesse dans le cœur, j'ai continué mon cheminement avec lui, et en fait, il fallait lâcher quelque chose. Dieu savait que je devais lâcher quelque chose. Et c'est ce que j'appelle, en fait, la vision que j'ai eue, en fait, parce que j'ai vraiment eu cette vision. C'est la deuxième fois où Jésus m'est apparu vraiment dans mon cœur. Je savais que c'était lui, même si je ne l'ai pas vu. C'est que j'étais dans ma salle de bain et je me suis retournée. Et à un moment, j'ai vu comme Jésus qui me montrait mes mains et qui me disait, mais lâche, lâche ce que tu as dans les mains, que tu tiens et qui te brûle et qui te consume. Tu ne lâches pas, comme des braises que j'avais dans les mains qui me brûlaient. Je n'ai pas compris, donc je me suis agenouillée, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne comprends pas cette image. Et là, d'un coup, j'ai dit, c'est par rapport à la promesse. Finalement, il n'y a pas de promesse d'un deuxième mari. Et d'un coup, je lui ai dit, mais de toute façon, tu ne peux pas accomplir cette promesse parce que tu m'as déjà pris mon premier mari. J'ai dit, tu ne peux pas faire ça. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, tu n'as jamais été là. Depuis que je suis toute petite, tu n'as jamais été là. Je suis désolée, on fêtait un anniversaire, hein, le 20e. Et en fait, ce jour-là, eh bien, j'ai eu comme une réponse de Dieu qui me disait, mais j'étais à côté de toi quand tu pleurais et je ne t'ai pas pris ton mari. Moi, j'ai payé le prix, j'ai donné mon fils pour que je puisse te retrouver, pour que nous puissions avoir une relation ensemble, de nouveau. J'avais réalisé que l'amour de Dieu, c'était pas du tout pour me détruire, comme j'avais pu connaître, mais c'était pour me reconstruire. Dieu était avec moi, pour m'aider à me sortir de là où j'étais. Mais c'était bien plus grand que ça. Dieu voulait me guérir d'une blessure profonde que j'avais par rapport au Père, et plus tard donc par rapport à un Dieu souverain. Et c'est pour ça que je me permets de vous passer cet extrait, parce que Marie de Magdala, donc, eh bien, c'est comment Jésus a son regard sur Marie, donc, qui est une femme perdue, hein, et en fait, comment Jésus la connaît par son nom, en fait, dès le début. Donc, je vous laisse regarder. Voilà, je trouve que c'est un moment très émouvant quand le Seigneur nous ramène à lui, que l'on voit qu'effectivement, il ne nous a jamais abandonnés. Et c'est vraiment ce que j'ai eu, c'est-à-dire que le deuil n'a pas été pour moi une rupture avec Dieu, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Ça a été un tremplin pour Dieu, pour me ramener à lui et pour me guérir de quelque chose de bien plus profond. C'est ce que j'avais vécu donc, dans mon enfance, où je pensais que l'autorité, donc terrestre ou divine, c'est-à-dire le Père divin ou le Père que j'ai connu moi sur Terre, c'était la même chose. Et je pensais que j'avais affaire à un Dieu qui pouvait être un père fouettard. Et en fait, dans cette souffrance-là, eh bien, Dieu m'a révélé qui il était. C'est pour ça que j'ai été dans ces eaux amères de Marah. C'est-à-dire qu'il m'a révélé qui j'étais et il m'a révélé qui lui, il était. Un Dieu qui libère et un Dieu qui vraiment restaure. Et voilà. Il libère, il console les cœurs brisés et il m'a donné cette grâce d'accomplir cette prière que j'avais faite, de ne jamais être séparée de lui et de le connaître. Et comme Job qui dit à un moment donné, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job que je ne voulais jamais lire avant. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que le fait d'avoir réalisé que j'étais aimée d'un Dieu inconditionnel, d'une façon inconditionnelle, pardon, d'un Dieu qui avait veillé sur moi même dans les moments que je vivais avec mon père, parce qu'en fait, jamais ça n'est parti en vrille, jamais c'est allé dans la tragédie. On a été gardés aussi dans toute cette enfance. Et bien, quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que Dieu était autorité et au-dessus de toute chose. À savoir, c'est ce que je me suis fait comme réflexion quand je partageais avec mon époux, c'est que le malin, le diable, est malin, parce que dès le départ, en fait, dans mon enfance, il avait cassé l'image que je pouvais avoir de l'autorité. Et évidemment que je ne pouvais pas me confier entièrement en mon Dieu, parce que cette image-là, elle avait été biaisée dès le départ. Et Dieu voulait régler cela avec moi. Donc je vous dirais aussi que j'ai été vraiment consolée donc, dans le deuil, c'est-à-dire que je n'avais plus la même position. C'est-à-dire qu'avant, je subissais le deuil, la souffrance, et ça dictait tous mes choix de vie. Eh bien, le Seigneur m'avait appris à y faire face. Ça ne veut pas dire que j'avais plus cette situation, mais je savais maintenant que Dieu était avec moi. Et cela m'a fortifiée aussi. J'ai appris l'obéissance dans la souffrance. J'ai appris que les noms de Dieu, c'est pour nous protéger. Et j'ai appris que dans ses oui, il est avec nous, il est à nos côtés et que la victoire est assurée. Donc j'ai compris que obéir à Dieu, eh bien c'est vraiment, je l'avais compris avant ma conversion, mais je me disais toujours, et quand l'épreuve va venir, comment on va réagir? Ben j'avais, voilà comment j'avais réagi. Eh bien Dieu m'a redonné de comprendre que quand il dit oui, il est à nos côtés. Mais quand il dit non, c'est pour nous protéger. Quand je vous parlais tout à l'heure, parce que je suis passée un petit peu vite sur le fait que ma position par rapport à la souffrance était différente, Dieu ne m'avait pas et a pas épargné mon époux une deuxième fois. C'est vrai, mais en fait, il était avec moi dans la souffrance. Il était avec moi dans l'arène pour me montrer comment en sortir. C'est ça que j'ai compris. On peut vivre des souffrances, mais Dieu est avec nous pour nous montrer la porte de sortie. Il n'y a que lui qui la connaît. Et dernièrement, on a vu une série sur une famille juive. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Les Ailes de la Chance. Et cette série juive, cette série sur une famille juive, c'est pendant la guerre, ils vont être séparés. Et par un miracle, ils vont tous se retrouver après la guerre. Ils ne vont pas mourir. Et en fait, il y a l'héroïne, elle va être torturée par les nazis. Et lorsqu'elle est torturée par les nazis, si on veut la faire avouer qu'elle est juive pour la tuer, elle est prête à abandonner. Et à un moment donné, et je pense réellement que c'est vraiment Dieu qui a mis Jésus dans son cœur cette pensée, elle se souvient d'une promesse qui n'a pas été réalisée. Cette promesse, c'était qu'elle reverrait son frère jumeau. Et ça ne s'était pas réalisé, mais elle était persuadée que ça allait se réaliser. Et c'est ça qui va lui redonner le courage d'affronter la douleur. Et de fait, la promesse va s'accomplir. Et moi, c'est ce que Dieu m'a redonné. Il m'a redonné l'espérance qu'il y aurait un demain, qu'après la pluie, il y aurait vraiment un jour le soleil. Et j'avais dit dès le lendemain à mes filles, un jour, les puces, je les appelais les puces, je disais un jour, nous aussi, on poussera encore des rires et des cris de joie. Et c'est ce que le Seigneur m'a rappelé. Enfin, j'ai appris effectivement la confiance en lui, mais vraiment une confiance de savoir que je pouvais m'appuyer sur lui, parce que beaucoup de personnes avaient quitté mon chemin entre-temps, mais lui, jamais, jamais, n'avait quitté mon chemin, même si c'était au travers des autres, même si je ne le voyais pas. Je pense que son dessein était même très grand, parce qu'en fait, je pense qu'il me préparait à ma vie d'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, en fait, donc j'ai rencontré Fred et nous nous sommes mariés. Donc je vous présente Fred, que vous verrez dimanche si vous venez. Et en fait, Fred est un ancien voyant qui, lorsqu'il a réalisé que ce don ne venait pas de Dieu, vraiment a capitulé devant Dieu et donné son cœur à Dieu. Et aujourd'hui, dans l'appel qu'il a, il enseigne et il éclaire sur les pratiques occultes et il aide des personnes en difficulté. Et si moi, je n'avais pas vécu toutes ces choses, premièrement, je dirais que je peux avertir les personnes en disant s'il y a eu des liens dans votre famille, nous, on est la preuve vivante que, eh bien, il peut y avoir des conséquences et qu'il faut couper ces liens. Et si j'avais été avertie ce jour-là, si j'avais rencontré une personne comme Fred, peut-être que j'aurais eu une prise de position différente. Quand je vivais avec mon époux ses batailles dans le cadre de sa dépression. Aujourd'hui, je peux aussi l'accompagner quand il fait, par exemple, des entretiens, parce que je sais maintenant comment Dieu me demande de prendre position, et de s'appuyer sur lui, et c'est ce que nous faisons. Et de fait, je ne vous cache pas que parfois, il nous est arrivé qu'il y ait des combats spirituels assez forts, et nous savons que Dieu est avec nous parce que nous lui faisons confiance, parce que je crois que quand on vous redonne une deuxième chance, ou quand on revient de très loin comme Fred, eh bien, vraiment, il n'y a que le Seigneur qui peut nous porter. Voilà, donc je vous dirai aujourd'hui que bien sûr, il y a encore du travail. Mais c'est comme je crois que vous connaissez peut-être cette histoire d'un métier à tisser où on voit tous les fils, et puis quand vous retournez, vous voyez une belle œuvre. Ben, c'est ce que Dieu fait dans notre vie, dans chacun de notre vie. Vraiment, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et pourtant, il a promis que ce qu'il a commencé en nous, il l'achèvera jusqu'au bout. Je vous dirai aujourd'hui que mes propres enfants, je ne vous en ai pas trop parlé, par respect pour elles n'ont pas encore été consolées, elles, aujourd'hui, de ce qu'elles ont vécu, mes deux filles, mais aussi Benjamin, de ce que moi j'ai fait, de ce que leur papa a fait. Mais je prie parce que je me dis que ce Dieu qui est fidèle et qui a fait grâce, eh bien, il agit aussi pour mes enfants. Et j'ai appris la semaine dernière des choses magnifiques de ma fille aînée qui commence vraiment à être travaillée profondément sur le pardon. Elle n'arrête pas de lire des livres sur le pardon, alors qu'elle a une immense colère dans le cœur. Et le Seigneur lui parle, il n'abandonne pas. Et c'est ce qui me donne l'espérance. Alors voilà, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Je ne voulais surtout pas vous aider à prendre les mouchoirs. Je vois certaines émues. Je voulais juste vous dire que voilà, Jésus a été vraiment le chemin pour me sortir de ma souffrance. Et si je viens là aujourd'hui, malgré ma timidité, etc., je peux vous dire que j'avais vraiment à cœur de vous dire, n'attendez pas, où que vous soyez, dans quelque situation que vous soyez, que vous ne le connaissiez pas, que vous en soyez éloigné, n'attendez pas comme moi d'arriver vraiment à une situation où vous vous dites, mais c'est pire sans toi qu'avec toi, même si je ne comprends pas ce que je vis. Maintenant, viens m'aider, parce que Jésus est le seul qui peut vous délivrer. Le seul qui peut vous délivrer de tout ce qui vous accable. Voilà, c'est ce que j'avais à cœur de vous transmettre aujourd'hui. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Si vous voulez prier, je ne sais pas si je peux me permettre de prier. Et si vraiment votre cœur a envie de dire oui à Jésus aujourd'hui, eh bien vous pouvez lui dire. En tout cas, je vous dis amen ou vous répétez la prière avec moi si vous le voulez. Seigneur, je te remercie, mon Dieu, parce que ton amour est inconditionnel. Je ne connaissais pas cet amour qui dépasse mon entendement, Seigneur. Je veux te dire toute ma reconnaissance parce que tu es venu me rechercher des ténèbres. Tu es revenu me chercher inlassablement, une fois, deux fois, dans ta grâce, dans ta miséricorde. Et tu m'as délivré, guéri abondamment. Alors je veux te demander pardon. Pardon pour cette vie, Seigneur, sans toi. Cette vie où j'ai voulu vivre sans toi. Cette vie de péché, Seigneur, où je n'ai pas regardé à toi, Seigneur. J'ai attristé ton cœur, je suis pécheresse devant toi. Mais tu m'as pardonné, Seigneur. Tu savais qu'il y avait un prix à payer. Tu as payé le prix en donnant ton Fils, Seigneur. Et c'est Jésus, de par son sang, qui m'a racheté, qui m'a redonné, Seigneur. Et c'est pour ça que c'est le chemin de ma résilience, qui m'a redonné d'avoir accès, Seigneur, à toi, qui est le Dieu de la vie. Tu me redonnes cette vie en abondance et je te demande cette grâce, Seigneur, que tu bénisses abondamment chacune des sœurs, que vraiment elle ait cette prière de foi, que tu te révèles à elle, Seigneur Jésus, pour celles qui ne te connaissent pas. Et que de nouveau, Seigneur, il y ait une nouvelle relation pour celles qui sont dans la souffrance et la peine. Que vraiment, de nouveau, elles reprennent ce chemin que tu es, Seigneur Jésus, le chemin de la résilience. Que tu sois glorifié, mon Père. Soyez béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie.
Merci, Nathalie. Alors, pour une première... Tu nous as touchés bien profondément. Alors, vous aurez peut-être remarqué sur les tables, à côté de vos assiettes, qu'il y avait des petites feuilles. Alors, Je ne sais pas trop par laquelle commencer, mais les pas sur le sable, c'est une histoire que vous avez probablement déjà entendue pour un certain nombre d'entre vous. Moi, ce que j'en retiens, c'est la fin. Ce que le Seigneur répond finalement à cette personne qui se sent seule sur son chemin de souffrance. Alors, il est écrit « mon fils », mais on peut aussi dire « ma fille ». Tu m'es tellement précieux, je t'aime, je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Le jour où tu n'as pas vu qu'une, où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. » Et je crois que Nathalie nous l'a démontré ce matin à travers son histoire. C'est vrai que sans lui, finalement, il y a bon nombre de choses qu'on ne supporterait pas dans nos vies, à travers lesquelles on n'arriverait même pas à avancer. En tout cas, sa présence est vraiment incroyable et ressourçante. On vous a laissé aussi un petit souvenir pour les 20 ans. Et on avait à cœur de vous laisser ce verset. Je crois qu'il conclut relativement bien ton histoire. C'est un texte tiré de Lamentations 3, versets 21 et 23. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Et Nathalie l'a dit au début, c'est vrai que Dieu a le dernier mot et il va au bout, quoi. Il ne nous lâche pas et ça, c'est une promesse juste incroyable. Alors, un grand merci à toi, Nathalie, pour ce partage très touchant et qui nous encourage aussi à suivre Jésus. Et pour finir, je vous propose de chanter encore un chant en conclusion de ce témoignage. C'est un chant que Nathalie nous a proposé. Ces paroles paroles nous encouragent à suivre Jésus, quelles que soient les situations de vie. Mais moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à bien réfléchir à ces paroles. Si nous suivons Jésus, il est fidèle et bon. Il répond à nos besoins et souvenez-vous, c'est en son temps et selon son plan pour nous. On a tendance des fois à se dire « je ne comprends pas pourquoi cette situation, je ne sais pas pourquoi je dois passer par là. » Dieu sait, et ça c'est vrai. Alors je vous propose de chanter « Jésus, je te suivrai ». Comme tout à l'heure, si vous avez envie de vous lever, vous pouvez le faire, hein. N'hésitez pas. Je te suivrai.
simple fonte. Jésus, je te suivrai.
Jésus, je te suis.